bout du jour sur la première.
Eddie Kakelberg.
Je vous propose à présent de prendre le cap du Maghreb et de nous poser quelques questions sur les exportations d'armes, sur nos exportations d'armes vers ces pays du Maghreb. C'est l'occasion de le faire à propos d'un nouveau rapport du GRIP, hein, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, précisément sur ces exportations d'armes au Maghreb et leur conformité avec ce qu'on appelle la position commune. Pour nous en parler, Maria Cameo est chargée de recherche au GRIP précisément sur cette affaire. Bonsoir Maria.
Bonsoir.
On va déjà essayer de situer les volumes de transfert d'armes par exemple vers trois pays essentiellement, hein, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.
Oui, selon les données du CIPRI, donc le Stockholm International Peace Research Institute, l'Algérie et le Maroc sont les principaux importateurs d'armes du continent africain. L'Algérie a notamment été le 7e plus grand importateur d'armes conventionnelles au monde entre 2012 et 2017. On constate que les importations algériennes d'équipements militaires ont constitué 52% au niveau du continent africain. Le Maroc, il apparaît en 30e position du classement mondial et il représente 12% des livraisons d'armes en Afrique. La Tunisie reste un peu de côté dans ses classements parce qu'elle ne peut pas vraiment rivaliser avec ses voisins. Mais ça ne semble pas non plus être son intention. L'étude du GRIP se concentre sur les transferts des États membres de l'Union européenne à ces trois pays du Maghreb. Et je peux vous dire peut-être quelques données pour se faire une idée du volume que ça représente. Les ventes d'armes des États membres de l'Union européenne ont représenté 20% du total des importations à l'Algérie. Et là, on trouve 11% provenant de l'Allemagne, 6% de l'Italie, 2% de la Suède et entre autres pays. Quant au Maroc, les ventes d'armes des pays membres ont représenté 47% du total des importations marocaines. On continue à parler de la période 2012-2017.
Alors Maria, quel type d'armes en fait exportons-nous vers ces pays?
On exporte notamment des navires, des frégates, des patrouilleurs, des hélicoptères, des radars de recherche aérienne, mais aussi beaucoup de véhicules blindés et véhicules et camions militaires.
On imagine évidemment qu'à partir de là, on peut deviner le type de mission que cet armement accompagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que bon, on imagine bien qu'avec des frégates et des patrouilleurs, il s'agit effectivement de patrouiller en mer au large des côtes et du détroit de Gibraltar.
Oui, on sait qu'il y a une grande partie du commerce international qui passe autour de ces trois pays, enfin dans les côtes de ces trois pays. Mais comme je vous ai dit, il y a aussi beaucoup de véhicules blindés et de camions militaires ou véhicules militaires en général qui servent plutôt à contrôler l'intérieur, les hélicoptères aussi, l'intérieur du territoire et pas seulement les côtes.
Donc on est occupé en quelque sorte, nous, les pays européens, à aider aussi un certain nombre de ces pays à surveiller leurs frontières communes. Et on songe évidemment qu'il y a le problème du Sahara pour le Maroc, et qu'il y a les gros problèmes frontaliers entre le Maroc et l'Algérie, et même entre la Tunisie et l'Algérie.
Oui. Enfin, on ne peut pas passer à côté du Sahara occidental quand on parle du Maroc et de l'Algérie. C'est une source de conflits et des tensions surtout, entre les deux pays. Ça touche bien sûr aussi au sujet de la sécurité régionale.
Donc nous fournissons des armes à de potentiels belligérants.
Oui, le mot potentiel est très très important. On ne peut pas assurer 100% que ces armes vont être utilisées pour faire la guerre ou pour participer dans un conflit. Mais bien sûr, on ne peut pas laisser de côté le fait qu'il y a des tensions qui arrivent à des niveaux importants de temps en temps.
Ce sont aussi des budgets, vous nous en avez donné une idée, dans les importations de ces pays qui sont assez colossaux. C'est, pour le Maroc, vous nous avez dit, c'est pratiquement 50%
de leurs importations.
Ce qui veut dire que dans un pays qui n'est pas autosuffisant du point de vue de la nourriture, du point de vue de l'équipement, etc., c'est un budget colossal.
Oui, on ne peut pas vraiment parler de budget exact qui est le Maroc ou l'Algérie ou même la Tunisie, attribuent au achat de ce type de matériel, du matériel militaire et des défenses, car il y a un manque de transparence de la part des autorités. Donc on n'a pas vraiment accès aux chiffres réels de ce qui a été vraiment importé. Cependant, il y a moyen d'identifier des tendances générales, surtout grâce à un système, ça s'appelle TIV. C'est un système créé par le CIPRI, dont j'ai parlé avant. Et ça nous permet de calculer plus ou moins ce qui a été investi par ces pays, ou n'importe quel pays, dans l'achat de ce type de matériel. Donc, il est calculé, le TIV est calculé en fonction des coûts unitaires des productions qui sont déjà connus sur des armes, des types spécifiques d'armes.
On a évidemment aussi bien compris sans doute que lorsque l'on parle navette, corvette, patrouilleur, on imagine qu'en fait on rétribue aussi ces pays, l'Union européenne rétribue ces pays par des armes parce qu'on les charge de missions de surveillance dans les problèmes migratoires.
Bien sûr, la migration, les trafics illégaux, pas seulement des personnes, mais aussi de stupéfiants et d'autres marchandises, et la menace terroriste font partie des intérêts stratégiques de l'Union européenne et des pays de l'Union européenne dans cette région voisine. Donc, elle essaye de renforcer sa coopération en matière sécuritaire, frontalière et même politique avec les pays du Maghreb. Et les transferts d'armes peuvent s'inscrire dans une logique d'externalisation des politiques sécuritaires de l'Union européenne dans cette région.
On pourrait comme observateur se demander si l'Union européenne prend toutes les garanties à propos du matériel livré et des missions menées.
En effet, l'Union européenne, dans la théorie, montre qu'elle a cet intérêt de garantir que ces exportations d'armes respectent les droits fondamentaux et les droits de base de l'Union européenne, tels la démocratie, le respect des droits de l'homme, la résolution pacifique des différends. Donc c'est pour ça que les États membres se sont accordés sur la position commune qui établit des critères stricts avec l'idée d'encadrer les choix des clients et les exportations d'armes des pays membres.
On a quand même une interrogation. Le Maroc, on connaît, la Tunisie est en transition, l'Algérie reste très coincée sur sa formule de régime depuis les années 1990 et sa guerre interne contre le terrorisme islamiste. On a évidemment le sentiment qu'on est occupé à fournir des armes à des régimes forts.
Oui, oui, en effet. C'est plutôt dans les jours à jour ou les petits détails qu'on a les surprises. Et comme j'ai dit dans mon rapport, personne s'y attendait aux réactions lors du printemps arabe. Et pourtant...
Ça a eu lieu.
Oui.
Est-ce que nous sommes finalement, parce que c'est la question que vous posez, quelle conformité avec la position commune, est-ce que nous sommes 100%, nous, Européens, conformes entre notre pratique et notre discours?
Non, on peut dire que c'est vraiment pas le cas. Les États européens de l'Union européenne sont encore loin d'atteindre les intentions et les objectifs qui se sont fixés au moment de créer cette position commune, qui était en 2008. Mais cependant, ces mois de décembre passés, on célébrait les 10e anniversaire de la position commune et les États membres ont entamé un processus de révision. On trouve que ça, c'est vraiment une grande opportunité et une opportunité réelle de changer et corriger certaines lacunes qui existent dans les cadres actuels de la position commune afin de pouvoir arriver à une politique plus stricte et qui respecte les principes de base de l'Union européenne et du monde.
Merci donc de nous donner quelques indications. On a compris que c'est un dossier qu'on va devoir suivre parce qu'il va encore évoluer dans les mois et semestres à venir.
Oui, en effet.
Merci Maria Carillo. Je rappelle que vous êtes chargée de recherche au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, et que le rapport complet, on peut le trouver sur le site du GRIP.